Voilà, donc première table ronde. Toujours dans cette perspective, donc, de perspective, dans cette perspective, oui, de perspective et d'ouverture, surtout. Nous avons repris ensemble, tous les quatre, pendant le temps du déjeuner, un petit peu... chacun a repris, finalement, un petit peu l'axe, l'orientation de son intervention, à la fois par rapport à ce qui s'était déroulé au cours des trois journées, à la fois... dans la volonté légitime de ne pas être, de ne pas se répéter, et surtout dans l'idée de bien capter, justement à partir de ces trois journées, ce qui pouvait se dessiner comme avoir valeur de perspective. Alors une perspective, une ouverture, ça n'est pas une conclusion, ça n'est pas des... Je pense qu'aucun d'entre nous n'est prêt, ne souhaite à formuler quelque chose qui soit conclusif, définitif, ce qu'on dénonce par ailleurs. Non, justement. Il s'agit plutôt de rester dans l'interrogation, dans le possible, dans le point de suspension ouvert à l'avenir. Alors, de façon plus précise, cette question de la perspective, il nous a paru pouvoir possible de l'articuler autour d'un terme qui a été évoqué à deux ou trois reprises, en tous les cas à quelques reprises au cours de ces journées. C'est le terme de Kulturarbeit, de travail de la culture. Ce travail de la culture, si difficile à définir, et le fait de l'utiliser et d'en user dans sa formule allemande n'est pas une coquetterie, mais c'est qu'effectivement la traduction française est en dessous de ce que ce terme veut dire pour Freud. Kulturarbeit, littéralement, c'est travail de la culture, mais en allemand, Kultur, c'est aussi civilisation. Les deux peuvent se dire. Et ce terme de travail de la culture a donc, dans son acception allemande, une dimension qui déborde, qui dépasse, qui excède celui simplement, en effet, de la culture au sens strict et du savoir culturel. Il s'agit véritablement de ce que j'avais évoqué en citant la phrase de Freud concernant l'assèchement du Zuiderzee. C'est pour Freud ce travail contre les pulsions, ce travail du moi, à la fois individuel, mais collectivement, de lutte, toujours à reprendre, sans fin. Hein, c'est l'image de l'assèchement du Zuiderzee contre la haine, et Lacan ajoute la ségrégation. Alors c'est vrai que pour Freud, ce travail de la culture, il est voué à l'échec d'une certaine façon. Je l'avais évoqué dans ses lettres à Einstein et dans ses propos sur la guerre et la... sur la guerre et la mort en 1915. Eh bien, pour Dolto, on peut se demander si justement ce travail de la culture qui semble voué à l'échec pour Freud n'est pas coextensif à l'exercice de la psychanalyse. C'est une question, mais c'est quelque chose qui m'a paru traverser ces journées. Cette notion, quelque chose qui serait coextensif. Et pourquoi coextensif? On peut en faire une hypothèse, c'est que pour Freud, comme je viens de le rappeler, la question était celle de la répression des pulsions. Alors que pour Dolto, la question n'est pas celle de la répression des pulsions, mais de la dynamique du désir. On est donc dans deux logiques différentes. Et pour Dolto, cette participation du travail de la culture au niveau individuel, mais au niveau collectif, social, sociétal, c'est de ça dont il sera question au cours de cette table ronde, et du côté du désir, et du côté de la relance du désir, et du côté de la vitalité du désir. Donc peut-être une distinction entre un pessimisme qualifié de freudien et puis quelque chose qui n'est pas de l'optimisme, mais qui est de l'ordre de la croyance, de la foi, de l'allant devenant, comme il a été dit aussi, du côté de Dolto. Alors, si l'on choisit ce fil rouge du travail de la culture, au travers des trois interventions qui vont être faites, il est à croiser, en termes plus modernes, avec la notion de représentation collective. Effectivement, nous ne sommes plus dans une situation culturelle où le travail de la culture ne prendrait que des formes savantes, dans tous les sens du terme, mais passe aussi, et même si ce n'est de façon prévalente, par des représentations collectives dont les médias, et en particulier la télévision, sont particulièrement les acteurs. Alors, représentation collective de l'enfant, représentation collective qui affecte l'enfant, représentation collective de l'ado, représentation collective qui affecte l'adolescent. Et de ce point de vue-là, Geneviève Guichenet nous évoquera cette dimension, comment le téléspectateur, du point de vue du téléspectateur, cette notion de représentation collective que nous, spécialistes entre guillemets, avec beaucoup de guillemets, en tous les cas professionnels, approchons d'une certaine manière, comment elle est approchée de l'autre côté de la lucarne, d'une certaine façon. Mais j'anticipe déjà un petit peu sur le contenu des interventions des uns et des autres. Donc, pour conclure et pour avant de leur donner la parole, donc Patrice Huer, qui est donc à ma gauche, évoquera la question des adolescents et en particulier de cette conflictualisation, en tous les cas, de cette problématisation entre l'ado, son vécu, son éprouvé, et puis les représentations de l'adolescent. Son intervention sera suivie de celle de Geneviève Guichenet autour de ce que je viens déjà d'évoquer, de la souffrance qui peut être éprouvée face aux représentations produites comme modèle, pour le coup, par les médias. Enfin, Sylviane Giampino, toujours autour de ce fil rouge du Kulturarbeit et puis en termes plus modernes, donc des représentations collectives, évoquera la question de ce qui excède, déborde les tentatives de calibrage, c'est-à-dire ces représentations en question ne sont pas figées, ne sont pas immuables, du côté de l'éthique du sujet, du côté du désir. Voilà, avant de donner la parole à Patrice Huer, je voulais juste rappeler, si j'en trouve la page... Rappelez donc que Patrice Huer était donc psychiatre des hôpitaux, psychanalyste, chef de service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'EPS Erasme à Antony, coordinateur de la maison des adolescents du Sud des Hauts-de-Seine. Et par ailleurs, a récemment publié un ouvrage, son dernier ouvrage paru, c'est « Place du jeu, jouer pour apprendre à vivre » chez Nathan en octobre 2007. Je donne donc la parole à Patrice Huer.
Merci. Donc, je vais essayer dans le temps qui est imparti de voir comment les représentations collectives concernant le groupe d'âge adolescent, l'adolescence, pèsent sur les épaules des humains pubères. Je vais commencer par une citation dont vous me direz intérieurement, parce que vous n'aurez pas la possibilité de le dire à haute voix, de qui et de quand ça date. La jeunesse éclatera comme la chaudière d'une machine à vapeur. La jeunesse n'a pas d'issue en France. Elle y amasse une volonté de capacité méconnue, d'ambition légitime et inquiète. Quel sera le bruit qui ébranlera ces masses, je ne sais, mais elles se précipiteront dans l'état des choses actuelles et le bouleverseront. Je vous donne la réponse. C'est Balzac, dans Z. Marcas. Alors, allons-nous continuer longtemps de rassembler et d'enfermer les humains pubères et les jeunes adultes dans la catégorie des adolescents? Parce que depuis la création de l'adolescence vers le milieu du XIXe siècle, force est de constater que l'adolescence est en inflation constante à la mesure de notre incapacité à faire passer de l'état d'enfant à l'état d'adulte. L'adolescent, pourrait-on dire, est pris au piège, sujet humain pris au piège de l'adolescence, dont les limites sont de plus en plus difficilement discernable. Il n'est donc pas tellement étonnant que nous, les professionnels de cet âge, nous rencontrions davantage chez eux de questions identitaires, individuelles, qui ne trouvent pas facilement de réponse, et que des manifestations auto-initiatiques se multiplient, scarifications, fugues, tentatives de suicide, prise de risque, etc. De surcroît, dans un univers où la prise de risque n'est pas vraiment valorisée au nom d'un principe de précaution qui règne en maître. La prévention laisse la place aux préventions. Les propositions préventives témoignent avant tout de ce qui inquiète les adultes, mais ne cherchent pas ou rarement à coller à ce qui trouble et questionne les adolescents. Et de cet écart vont naître chez un certain nombre d'individus les plus fragiles à l'âge de l'adolescence l'idée que si c'est cela qui intéresse et inquiète les adultes, pour avoir leur oreille, nous avons peut-être intérêt, nous les adolescents, à nous scarifier, à faire des tentatives de suicide, que sais-je encore. Nous sommes arrivés, sous couvert de préadolescence, terme que je vous invite à bannir du vocabulaire, et je pense que je ne suis pas le seul à penser ainsi. Sous couvert de préadolescence, nous sommes donc arrivés à diminuer grandement l'indispensable période de latence, avec toutes les conséquences que cela peut avoir ensuite, et à différer l'accès à la vie adulte avec cette post-adolescence par peur de l'avenir. Je dirais que la peur des adultes à l'égard de leur avenir devient la peur énoncée comme étant celle de ceux qui l'incarnent, à savoir les adolescents. Et ça, c'est pas nouveau. Que l'on regarde l'antiquité la plus lointaine ou les siècles qui nous précèdent plus immédiatement, on va retrouver toujours ce pointage sur la génération juvénile de ce qui inquiète la génération en place. Alors ne prenons pas pour fondamentalement nouveau ce qui nous arrive aujourd'hui du côté de ces groupes d'âge. Ce serait fonctionner exactement comme les adolescents qui ont tendance à penser que ce qui leur arrive arrive pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, qu'il s'agisse d'éprouver le sentiment d'une certaine injustice, d'éprouver des sentiments amoureux. Évidemment, ça n'est jamais arrivé auparavant. On peut dire aussi que, concernant l'adolescence, de tout temps, on verra le niveau de considération à l'égard des adolescents osciller en fonction de l'état de la société en place. En période calme, on pointe du doigt les adolescents comme dérangeurs. En période guerrière ou révolutionnaire, on les aime, surtout aux avant-postes. Alors, notre société n'est pas à une contradiction prête et une confusion des registres près non plus. Je vais en citer juste quelques-unes, puisqu'il y en aurait beaucoup parmi ces contradictions et ces confusions. Travail, c'est important pour ton avenir, entend-on dire tout le temps, à longueur de temps, dans l'enfance et l'adolescence, par les parents, les enseignants, les représentants de la société. Et en même temps, le soir, quand ils rentrent à la maison, ils entendent vivement le week-end, vivement la RTT, vivement la retraite. Qui croire ? Et on travaille. Pourtant, nous montrons l'exemple, même le week-end. Stimulation et excitation précoce règnent en maître. Les berceaux des bébés, c'est bientôt Noël, sont remplis de jouets à haute valeur technologique, faisant du bruit, des lumières, sous couvert de stimulation des compétences le plus rapidement possible. Il ne faut pas perdre de temps pour entrer en CP, apprendre à lire et à écrire. La maternelle à 2 ans peut-être. Et puis, ne ratons pas les étapes très précocement, sinon c'est l'avenir qui risque d'être très sombre. Et on s'étonne qu'un peu plus tard, on ait une floraison d'hyperactivité chez l'enfant et d'adolescents qui vont chercher dans des stimulations extérieures, scarification, alcoolisation intensive, etc., les moyens de se rassurer sur un sentiment d'existence par ailleurs très précaire. Un rapport au monde et aux objets précocement installés sous le signe de l'avoir, de la quantité, laissant de côté les questions de la qualité et la question de l'être. On confond agir et penser du sommet jusqu'à la base. La question de la minorité, de l'immaturité, et en même temps, responsabilisez-vous, dit-on. On voit bien comment, dans le même temps, où on les fera attendre sur le pas de la porte de l'âge adulte de plus en plus tardivement, on va leur proposer d'être considérés comme responsables de leurs actes de plus en plus tôt. Et on pourrait dire que les plus en insécurité intérieure sont évidemment ceux qui, dans la foulée, vont insécuriser le plus à l'extérieur. On voit une confusion, encore, entre le besoin de contenance et ce qui serait de l'ordre répressif. Confusion entre une position d'autorité nécessaire avec ce qui serait une contrainte imposée au sujet. Je propose que le nouveau droit de l'enfant stipule qu'ils ont droit à bénéficier d'une autorité suffisamment fiable et bienveillante. Et enfin, la confusion entre égalité et indifférenciation. Égalité légitime est toujours à faire progresser entre hommes, femmes, les droits de l'enfant, les droits des majeurs, et en même temps l'indifférenciation sexuelle générationnelle à l'âge où on est en train de se constituer et on est en recherche de sa propre identité, ça ne facilite pas vraiment le travail. Donc on voit bien que, pris dans toutes ces représentations collectives, ces mouvements-là, pour l'adolescent, c'est extrêmement plus compliqué de trouver son chemin et que les difficultés inhérentes au changement pubertaire, que tous les mammifères connaissent depuis l'origine, et il n'y a pas de raison que ça s'arrête, se trouvent renforcées, compliquées donc, par toutes ces représentations. C'est pour toutes ces raisons que je plaide depuis déjà de longues années, à la suite de Françoise Dolto, pour un abaissement de l'âge de la majorité, puisqu'il s'agissait de perspectives, pour soutenir la cause des adolescents. Abaissement, ne nous y trompons pas, qui n'aurait rien à voir avec ce que l'on entend dire ces derniers temps sur « il faut les punir plus tôt, les enfermer plus tôt », etc. Il s'agit bien au contraire d'un abaissement capable de redonner toute sa valeur à la notion de minorité qui est en train discrètement de s'effacer, je ne sais pas si vous vous en apercevez, alors qu'elle est toujours, la majorité, à 18 ans. Progressivement, la notion de minorité est vidée de son contenu. Et minorité, ça signifie que du côté des adultes, il y a un devoir de protection et d'éducation. Donc renforcer la minorité avec ce que cela suppose et implique pour les adultes dans le sens que je viens d'indiquer. En même temps, un abaissement de nature à conduire les adultes à préparer les enfants et les adolescents à l'exercice de leurs droits et de leurs devoirs, ce qui n'est pas toujours le cas, même lorsque c'est à 18 ans. Une manière de reconnaître des compétences, même si elles ne sont pas identifiables dans nos systèmes de référence, de repérage et dans nos cases préétablies. Ce n'est pas parce qu'on ne repère pas les compétences ou les potentialités qu'elles n'existent pas. Or, bien souvent, aujourd'hui, on a l'impression d'assister à cela. Et enfin, et ce n'est pas une raison anecdotique, que cet abaissement que Françoise Dolto prônait contraindrait les politiques à se soucier autrement que de manière négative des adolescents, sujets humains, dans la mesure où ils seraient bientôt des électeurs. Je vous remercie.
Je vais donc donner la parole à Geneviève Guichenet, journaliste et directrice du développement durable à France Télévisions.
Bonjour et merci de m'accueillir. Je travaille donc dans un système de représentation sur lequel on peut s'interroger et entre autres sur sa contribution au Kulturarbeit en effet si important. Avant de m'occuper du développement durable, d'essayer d'introduire le développement durable à France Télévisions, j'en dirai un petit mot tout à l'heure. J'ai été médiatrice des programmes à France Télévisions. C'était une fonction nouvelle qui créait une interface, en quelque sorte, entre les téléspectateurs et les professionnels de la télévision. En tant que médiatrice, j'ai donc accueilli la parole des téléspectateurs qui écrivent en très grand nombre à la télévision. Je ne sais pas combien d'entre vous donc d'autres téléspectateurs écrivent à la télévision et en très très grand nombre. La première année où j'ai exercé, on n'avait pas du tout communiqué, on ignorait l'existence de la médiation. Il y a eu 2400 messages et quelques courriers. Et la deuxième année, on n'avait toujours pas communiqué, il y avait 24 000 messages. C'est formidable qu'ils écrivent, ça veut dire qu'ils ne désespèrent pas. Et ce qui est très frappant aussi et très réconfortant, c'est la pertinence de leurs propos. Et il y a de bonnes raisons à ce qu'il soit pertinent. Alors, quelques chiffres quand même sur la réalité de la situation des téléspectateurs qui n'est ni un métier ni une fonction sociale. Il y a deux sortes de gens qui ne manifestent quasiment jamais, c'est les malades et les téléspectateurs, au fond, parce que c'est chacun de nous à tour de rôle et pas dans une situation professionnelle ou sociale. Il faut savoir que chaque soir, plus d'un poste sur deux, au maximum un poste sur deux, est allumé. La vie associative dans ce pays montre que les gens ont tout un tas d'autres activités. J'imagine que vous ne regardez pas la télévision tous les soirs. Et donc, c'est ailleurs que la télévision est allumée tous les soirs. Et là, il y a quelque chose d'extrêmement important sur le plan social. Ce n'est pas n'importe où qu'elle est allumée tous les soirs. Alors l'audience en ce moment monte un tout petit peu. Pourquoi ? À cause de la crise. Chaque fois qu'il y a des difficultés, l'audience de la télévision monte parce qu'il faut bien faire des arbitrages. Et il y a des foyers où on n'a que ça pour se distraire. Un téléspectateur est quelqu'un qui est chez lui, le téléviseur, il est au cœur des foyers. Et quand la télévision flanque des coups, elle flanque des coups à domicile, avec des gens qui n'en peuvent mais, qui ne peuvent strictement rien faire. Et pour une part, ils écrivent pour se plaindre, ils écrivent aussi pour féliciter, parce qu'ils pensent que ça va encourager, si on dit ça, c'était bien. Alors, je voudrais raconter une expérience que j'ai faite, parce qu'elle m'a beaucoup marquée, et elle est à la frontière entre la télévision et la vraie vie et la société. Un jour, l'écomusée de Fresnes a organisé une exposition sur les téléspectateurs. Je trouvais ça extraordinairement audacieux de penser qu'il y avait une reconnaissance des téléspectateurs. Et dans le cadre de cette exposition, on a demandé aux Fresnois d'écrire à la médiatrice. J'étais d'accord, bien entendu, on s'était mis d'accord là-dessus. Et une classe de CM1... m'a écrit. L'institutrice les a fait travailler, ce que j'ai appris après, parce que les enfants, dans leurs lettres, terminaient par « Est-ce que vous voudriez bien venir nous voir pour nous expliquer comment la télévision arrive chez nous ?» Ils avaient tout un tas de questions à se poser. Évidemment, j'y suis allée. J'ai appelé l'institutrice qui m'a dit « Mais... ils vont être très surpris parce que je leur ai dit que vous ne pouviez pas venir. » Et ils lui ont répondu, écoute, on va lui poser la question, toi tu n'en sais rien si elle ne peut pas venir. Donc j'y suis allée, ils avaient préparé tout un tas de questions dans une grande boîte à biscuits, c'était extraordinaire de voir leur mobilisation. Et l'institutrice m'a dit, bien entendu, personnellement je n'ai pas la télévision. Mais pardonnez-moi pour les titres des programmes, j'ai acheté un hebdomadaire pour vérifier. Ils ont un peu tout mélangé, toutes les chaînes, mais enfin, on a travaillé. Et elle m'a dit, j'ai tout transcrit, tout ce qu'ils ont dit, ça a été rédigé par un élève, tout ce qu'ils avaient pu dire après y avoir beaucoup réfléchi. Et ces petits-enfants, c'était à peu près contemporain de l'époque où c'était diffusé, disaient... Alors Fresnes, c'est une ville moyenne qui est traversée par l'A86 et il y a le côté avec prison et le côté sans prison. Et la présence de la prison est quelque chose de très important dans la vie des Fresnois. Et là, l'école est du côté sans prison et du côté de l'écomusée. Et ces petits-enfants disaient dans leurs lettres, on n'aime pas le loft, c'est trop regardé dans la vie des gens. C'était des CM1. Et puis, il y a une petite fille au cours de la préparation qui avait dit « Il y a trop de sexe à la télévision. » La maîtresse était un peu surprise et elle l'a laissé dire ça. Et tous les autres petits-enfants ont dit « oh oui alors !» Alors, j'ai expliqué comment marchait la télévision. Ils voulaient savoir comment elle arrivait chez eux. Et pourquoi la télévision du câble, elle n'arrivait pas par la voie normale. Ils avaient bien repéré que le câble, c'était plus cher et que la télévision gratuite, elle arrivait comme ça. Et puis que pour le câble, il fallait payer et que leurs parents ne pouvaient pas. En tout cas, ce qui s'est passé à la suite de ça, c'est que une petite fille est venue me voir après et m'a dit « C'est bien parce que maintenant, on va pouvoir parler de la télévision avec maîtresse. » Et l'institutrice m'a dit « J'ai été obligée d'acheter un téléviseur. » Ce qu'elle leur a promis, Mais elle a complètement changé aussi. Elle m'a dit, je vous remercie, j'ai appris des tas de choses sur mes élèves que j'ignorais complètement. Et ils n'arrivaient pas à en parler parce qu'ils savaient que la maîtresse n'aimait pas la télévision. Mais ils ont vérifié, ils lui ont dit, tu as dit que tu avais la télévision, il faut, qu'est-ce que tu regardes ? Quand même. Et elle m'a dit, il faut que tous les autres enseignants en fassent autant. Il y a une autre chose importante à propos de la télévision. Enfin, si, il y a une chose importante à ce sujet-là, c'est la disqualification. Il faut faire très attention, au fond, à la disqualification des parents qui se fait à travers ce « la télévision, c'est pas bien ». En plus, la télévision, c'est une mauvaise nounou. On le sait bien. Et je ne sais pas bien ce qui s'exprime à travers le fait que c'est une mauvaise nounou. Parce que les parents qui laissent des enfants ou qui n'ont pas le moyen de faire autrement... Mais vous savez, la première plainte, ils disent la télévision est violente, donc c'est embêtant que les enfants regardent. On ne sait plus qui dit ça, cette histoire de la violence. Là, il y a eu 392 colloques sur la violence à la télévision. Et c'est pas de ça que se plaignent les téléspectateurs, jamais. Ou alors, à une exception près, où vraiment qu'il y a eu un programme horrible. Enfin, ils sont pas complètement idiots. Ils voient bien un coup de poing, c'est un coup de poing. Les programmes pervers, ça c'est autre chose, un truc où ils sont perdus, mais enfin la violence, non, elle leur fait violence, ça oui. Ce qu'ils n'aiment pas, c'est la souffrance où elle les met, quand ils ne comprennent pas ce qui se passe, mais ils ne se plaignent jamais qu'elle est violente. Ce que je trouve, et je suis très triste de ça, moi, que la télévision soit engluée actuellement dans une pente extrêmement bizarre, où se mélange l'émotionnel à l'excès et puis en même temps une espèce de forme d'insensibilité avec un défaut considérable de représentation. Et particulièrement chez les jeunes, il y a un des petits gamins là, de l'école de Fresnes qui m'avait demandé si dans les feuilletons, les acteurs, les pas connus, étaient tués pour de vrai. Les adolescents, d'abord les adolescents, ils ont souvent autre chose à faire qu'à regarder la télévision. C'est l'obsession de la télévision, rajeunir l'audience. C'est pas ce qu'on fait des vieux, à part le cyanure, je vois pas de solution, mais c'est énervant ce truc-là sur le vieillissement ou le rajeunissement. Et du coup, le continuum familial ne se retrouve pas du tout. On a l'impression qu'il faut en éliminer un pour avoir l'autre. En tout cas, les adolescents, ils ne regardent pas la télévision, encore une fois, parce qu'ils ont autre chose à faire, et puis qu'ils sont entre eux, et puis qu'ils ne se reconnaissent pas à la télévision, du tout. Et on comprend pourquoi. On ne les voit que quand on parle des banlieues, que quand ça flambe, et ils ont des stratégies vis-à-vis de ça. Quand on va discuter avec eux... dans les quartiers, comme on dit, c'est tout à fait extraordinaire. Il y a tout un. Je vous recommande le visionnage, on peut le voir en ligne, d'un film qui s'appelle Sabah, S-A-B-A-H, de Farid Lozès. C'est extraordinaire, une mise en abîme comme ça du système de la représentation des banlieues et de la façon dont des enfants rejouent quelque chose. C'est vraiment très, très, très bien. Mais il n'y a pas que les adolescents qui ne sont pas représentés quand on y songe. J'en ai parlé avec eux souvent. Les agriculteurs, vous en voyez beaucoup, vous ? Si, quand il y a des fruits des vidés par tonnes sur les autoroutes. Mais sinon, on ne les voit pas. Il n'y a plus de paysans. Il n'y a plus de gens qui cultivent des choses pour nous nourrir. Ça n'existe plus, ça. Un autre des défauts de la télévision, mais la télévision, les maux dont souffre la télévision, pour moi, ce ne sont que des symptômes de l'état actuel de la société, c'est qu'elle est dans un truc extrêmement binaire. Dans les débats, vous l'aurez remarqué, j'imagine, enfin non, c'est vrai que vous ne la regardez pas beaucoup, on est dans le oui-non. Il n'y a pas de choix. Il y a d'ailleurs une émission qui s'appelle oui-non ou quelque chose du genre à la radio. D'abord, il n'y a jamais de temps. C'est très vite pour conclure, en deux mots. Et comme ça, j'ai vu un universitaire... à qui on disait, bon, alors, l'islam, dangereux ou pas dangereux ? Le malheureux homme qui avait accepté de venir sur ce plateau, en se doutant bien que ce ne serait pas, on ne ferait pas dans la dentelle, mais quand même, Il a dit cette chose affreuse à dire sur un plateau, enfin ce n'est pas si simple, ne jamais commencer comme ça, et du coup je ne sais plus comment il s'en est sorti, mais parce que immédiatement ça a été oui ou non. Donc il y a une espèce de convocation comme ça à couper le monde dans des évidemment d'une manière qui devient complètement, complètement illisible. Alors face à ça, je n'oublie pas où je suis. J'ai écouté, comme tout le monde, Françoise Dolto à la radio. Et je me demande comment... moi, j'ai envie que vous vous occupiez des téléspectateurs, voilà. Parce que je sais que la psychanalyse s'intéresse à la souffrance, et à la souffrance qui est dite, et bien je peux vous dire qu'ils disent leur souffrance. Et on parlera du développement durable tout à l'heure. Je vous remercie.
Sylviane Giampino va donc maintenant prendre la parole. Sylviane Giampino, qui est déjà intervenue à plusieurs reprises au cours de ces journées, qui a fondé l'Association nationale des psychologues de la petite enfance, ANAPSI, et qui, comment dire, pourrait-on dire, via cette association, on appuie sur cette association, a participé à Pas zéro de conduite.
Oui, l'association est très engagée dans Pas de zéro de conduite et je suis de fait engagée dans l'association et dans Pas de zéro de conduite. J'y vais ? Bon, c'est vrai que sur cette question du social, difficile de ne pas rendre compte de cet engagement qui m'occupe, qui nous occupe à un certain nombre et même un nombre certain depuis 3 ans. C'est vrai que de par cette pratique sur le terrain, dans les crèches, dans les consultations de protection maternelle et infantile depuis plus de 25 ans, cette question de la prévention n'est pas nouvelle pour nous. Et l'articulation entre psychanalyse et prévention est quelque chose que j'appelle, suivant mon humeur, l'art de l'équilibre précaire ou bien le partage d'une illusion. J'ai présenté un peu cela lors du colloque Dolto il y a 10 ans. Et c'est vrai que la définition que, à l'époque, déjà, je donnais de la prévention, en quelque sorte définie ainsi, comme toute démarche qui consiste à éviter les dommages occasionnés à l'humanité dans la personne, ceci en prenant soin de sa dignité et en soutenant sa capacité à renouer la confiance. Par humanité, j'entends bien sûr le sujet. Alors, face à nous, il y a une autre conception de la prévention qui est en train de se mettre non seulement en pensée, mais en action dans notre pays, qui repose sur une idée qui s'appelle le dépistage précoce généralisé. Je vous en donne donc la définition de Valla, qui est l'un des penseurs de cela. Le dépistage est une identification de problèmes non reconnus chez les personnes apparemment en bonne santé, à l'aide de procédures rapides et peu coûteuses. Le dépistage est une forme d'identification économique appliquée à tous les jeunes. Il est défini par 2 caractéristiques. Il est appliqué à tous. Il vise à identifier les états qui nécessitent une réponse. L'administration des instruments de dépistage ne doit pas prendre plus de 10 à 30 minutes et doit pouvoir être effectué par un personnel non spécialisé. Vous voyez qu'on n'est pas loin de la télévision. C'est pourquoi les meilleurs instruments sont standardisés et très structurés. Les frais de personnel sont peu élevés car le dépistage se fait en groupe. Les instruments de dépistage sont faits pour identifier les jeunes et les enfants le plus à risque. L'identification de ceux dont les besoins sont les plus importants et les plus urgents est la meilleure stratégie. Le dépistage est similaire au tri ou triage médical, dans lequel les patients sont classés en 3 groupes en fonction de l'urgence des soins dont ils ont besoin. C'est clair. on ne peut pas dire qu'ils ne nous proviennent pas. Alors, il y a un autre élément, parce que je vous livre plutôt des questions que des réponses. Il y a un autre élément qui me tracassait, c'est qu'est-ce qui fait que dans le DSM, dont Roland Gori a tracé le portrait hier, qui sert d'appui à ce fameux trouble des conduites et également au TDAH, les enfants hyperactifs, et le TOP, le trouble oppositionnel avec provocation. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un item qui s'appelle « mensonge à 4 ans » Curieux, ça. Et je me suis demandé quand même s'il n'y avait pas une histoire de retour du refoulé dans cette affaire. Autour des mensonges des enfants, est-ce qu'il n'y aurait pas un problème de morale des grands? Ce serait un trouble des conduites, un signe du trouble des conduites qui permettrait de prédire une évolution vers les conduites violentes. Alors que pour nous, cliniciens, le mensonge à 4 ans est une étape importante, nécessaire et décisive dans la construction de la solidité psychique d'un enfant. Et d'ailleurs, c'est parce qu'il en passe par cela qu'après, il sera moins influençable et c'est quand même la meilleure façon de ne pas se faire piéger par de mauvaises fréquentations à l'adolescence, après tout. Retour du refoulé aussi. Quand, sur ces troubles des conduites, on nous mentionne un taux d'héritabilité de 50%, rien ne justifie ce chiffre. Quand des pédopsychiatres affirment qu'il y aurait en France 8% d'enfants atteints d'hyperactivité, dont 2 seulement à 3% seraient diagnostiqués et soignés, rien ne le prouve. Quand ils s'appuient sur des chiffres américains de 5 à 7% d'enfants qui sont médicamentés, de quoi parle-t-on ? On parle de dépenses de santé, de laboratoires pharmaceutiques ? Doit-on prendre ces chiffres pour argent comptant ? Alors, on nous dit que ces troubles, comme ça, seraient prédicteurs d'une évolution ultérieure vers la violence et la délinquance. C'est par cette voie de passage que sont reliés ainsi prévention psychologique, santé publique et ordre public et délinquance. Est-ce que ce n'est pas cela qu'on pourrait appeler le grand mensonge du trouble des conduites, ce que mes collègues plus instruits appellent le dérapage épistémologique. C'est quoi cette histoire de délinquance qui viendrait là faire le lien entre tout ça? Est-ce que ce serait une accroche marketing? Pourquoi les avocats de la prévention-prédiction entretiennent-ils la confusion entre difficultés psychiques et délinquance? Alors qu'à mon avis, ils savent bien que c'est une contorsion de la réalité. Les plus grands délinquants, les plus efficaces, ne sont bien sûr pas des gens qui sont cinglés. Trafic de drogue, prostitution de mineurs, banditisme international, délinquants de la finance, fonctionnaires corrompus, sont-ils des malades mentaux, etc., etc. Alors, serait-on face à ce que Bergson appelle une courbure de l'âme? Il écrit « Mauvais pli de la nature ou contracture de la volonté, le vice ressemble souvent à une courbure de l'âme. » Nos spécialistes, avocats du trouble des conduites et de la prévention des pistages généralisés, savent tout cela. Ils sont formés, expérimentés et compétents dans leur domaine. Seulement voilà, ils ont un projet de société qui pourrait s'appeler « Tous normés et 0% de questionnement ». Mais du coup, l'ennui, c'est qu'on en arrive à une situation de trac des enfants, de trac à la vérité et à la transparence. Vous l'avez compris, je n'ai pas fait l'apologie du mensonge. Je sais bien qu'il n'est pas à encourager et qu'il est même devenu un fléau social. La com a quitté depuis longtemps sa mission de communication d'une réalité, d'une vérité, pour devenir un outil permettant de raconter des histoires qui servent à masquer, à déformer la vérité, la réalité. Je vous renvoie au storytelling dont nous sommes tributaires via aussi la télévision. Mais ce n'est quand même pas parce que les adultes souffrent de sentir que leurs institutions, leurs employeurs, leurs conjoints ou leur journal est truffé de faux qu'ils doivent traquer les enfants, et devenir avec eux des obsédés de la vérité et de la transparence. Or, aujourd'hui, dans la vie quotidienne des enfants, c'est ça qui se passe. Dans une crèche, un enfant de 24 mois à qui l'on veut faire dire que c'est lui qui a tapé le premier pour qu'il se rende compte de son agression. Un enfant de cours préparatoire, convoqué en conseil des maîtres, pour qu'il explique pourquoi il a demandé à une fillette de lui montrer dessous sa culotte. Les élèves de collège, pour lesquels on appelle les parents sur leur mobile pour vérifier que c'est bien le beau-père qui a signé le carnet de correspondance parce que la mère était en déplacement. Alors, l'une des questions quand même que je me pose, c'est que hier, un de nos collègues de Pas Zéro de Conduite a montré sur quel soubassement quand même idéologique et théorique reposait tout cela. Dolto, le désir, ce matin ça a été développé par Gérard Guiraud, son axe, le désir, l'humanisation, la vitalité symbolique dans laquelle s'origine notre éthique. Hein. Et qu'est-ce qu'elle dit, Dolto? Elle dit « l'éthique humaine, c'est une recherche constante de dépassement » avec sa théorie des castrations symboligènes. Alors, je crois quand même que je vais quand même prendre 2 minutes pour vous dire que nous avons en France un monsieur qui s'appelle Richard T. Je ne le nomme pas plus que ça parce qu'il paraît qu'on monte dans les cotations quand on est cité au niveau des publications universitaires. Si je cite son nom et qu'on publie, il monte en cotation. Donc, Richard T. Eh bien, Richard T., il explique évidemment que de l'humain à l'animal, tout ça, c'est la même chose. Il dit quand même des choses très intéressantes. Dolto, elle est généraliste, elle s'intéresse à tout. Lui, il dit, j'ai passé les 35 années qui ont suivi ma sortie de service de prison, il travaille dans les prisons, à essayer de comprendre comment vient la violence. Alors, s'ensuit des choses abracadabrantes sur les animaux. Vous avez vu hier qu'il s'agit du mollusque, que nous fonctionnons comme les mollusques et les singes. Et il dit quand même, ce monsieur, pourquoi j'en parle ? J'en parle parce que c'est à partir de ces penseurs-là que se mettent en place des pratiques aujourd'hui en France. Hein. Dolto, qu'est-ce qu'elle dit ? Castration symboligène pour passer d'un circuit court à un circuit long. Alors, moi, ça m'intéresse, ce circuit long. Lui, qu'est-ce qu'il dit, le monsieur ? Il dit... Pour ma part, si j'ai choisi de centrer mes travaux sur l'agression physique des enfants plutôt que sur la délinquance ou sur l'agressivité, c'est pour une raison qu'il me paraît certain qu'on augmente ses chances de réussir à identifier les mécanismes réellement impliqués dans un problème si on réduit le dit problème à sa plus simple expression. Et quand il se justifie pour dire pourquoi il a choisi d'étudier ça, il répond... J'ai choisi d'étudier le développement et la prévention de l'agression physique pour cette raison que c'est l'un des comportements les plus faciles à étudier puisque les gestes, etc., sont les mêmes chez les animaux. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il dit aussi sur ses motivations ? Pourquoi je vous raconte tout ça ? Parce que c'est intéressant pour nous. Nous sommes des cliniciens, après tout. Et puis, j'ai quand même une question dans la tête. Je me dis, mais mince, Dolto, il est allé au Canada. Il était là, ce monsieur. Il était où ? Si seulement il avait croisé Dolto. Parce qu'il dit des choses. S'il avait croisé quelqu'un qui l'entendait à un moment donné. Hein. Il dit, je me souviens très bien du moment où je me suis mis à réfléchir à l'agression physique avant l'âge de raison. Je suivais le développement des comportements d'agression chez les enfants de 6 ans et plus, mais je me sentais dangereusement attirée par la petite enfance. J'approchais dangereusement de la cinquantaine. Est-ce que je voulais vraiment recommencer à zéro ? Est-ce que je voulais vraiment redevenir un néophyte, une sorte d'apprenti sorcier qui se lance dans un domaine qu'il ne connaît pas ? Je vous remercie.
Il nous restera 10 minutes pour des questions, même si nous avons déjà pris un quart d'heure de retard au moins. Ce qu'on entend bien au travers de ces 3 interventions, qui ne sont pas hétérogènes, étrangères plutôt les unes aux autres, en dépit de leur hétérogénéité apparente, C'est qu'il est question à chaque fois de la rencontre d'un territoire subjectif, celui de l'ado, celui du téléspectateur, celui de l'enfant, de quelque chose qui tente de se subjectiver, d'un territoire subjectif, à des processus d'assignation. D'assignation par la mode, par les contraintes, par un certain nombre de déterminants concernant l'adolescence en général pour les ados, par l'audiovisuel, la télé, plus clairement encore, et d'assignation aussi dès les premiers âges de la vie. Donc assignation à des représentations, pas seulement à des procédures, mais aussi derrière ces procédures, ou en même temps que ces procédures, à des représentations. Donc d'un côté des territoires subjectifs, de l'autre côté des procédures d'assignation. À ça, qu'est-ce qu'on peut opposer ? Et à ça, surtout, qu'est-ce que Dolto oppose ? Et qu'est-ce qui a traversé nos journées depuis 3 jours ? C'est au contraire, et radicalement au contraire, le désir et la valeur subversive du désir. La valeur et la fonction subversive du désir, hein, qui s'oppose aux pulsions, donc très clairement pour Dolto, le désir, ça subvertit les dispositifs d'assignation. Alors, le désir, quand je dis que ça subvertit, que c'est subvertif, ça n'est pas seulement du poste 68 heures, et justement pas, parce que le désir, c'est aussi du côté du devoir des éducateurs et de la charge qu'il entraîne. Et pour terminer cette petite remarque, il ne faut pas oublier que pour Dolto, plutôt, il ne faut pas oublier la définition que nous donne Dolto de la pulsion de mort. C'est le moment où le désir se repose. En d'autres termes, le désir, c'est fatigant. Le désir, ça use. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il subvertit. Je vais donner la parole à la salle.
Voilà, bonjour. Je m'appelle Grace Lagnado. Je suis venue ici du Brésil. Je suis psychanalyste et je travaille en psychanalyse d'enfants et j'enseigne Françoise Dolto dans une formation en psychanalyse d'enfants. Il est dommage de ne pas entendre les adolescents, peut-être que ce serait peut-être le mot de la fin, les entendre ici parler. J'aurais voulu poser une question par rapport à cette image que la télévision ne renvoie pas à l'adolescent, aux jeunes, là où il ne se reconnaît pas. Et il me semble qu'il se reconnaît sur Internet, sur Orkut, Facebook. Et quel impact cela a dans la jeunesse, dans comment cela affecte les jeunes aujourd'hui quand on parle d'Internet et tous les aboutissants que cela peut amener. Voilà.
Je ne suis pas du tout un grand spécialiste de tout ça, si ce n'est à travers ce que, suivant, avant même qu'elle l'énonce, le conseil de Geneviève Guichenet, en prêtant l'oreille à ce que les adolescents disent de leur rapport à l'image et à ces nouveaux modes d'échange. Alors je crois qu'il y a, comme à chaque fois dans l'histoire de l'humanité, qu'il y a des changements technologiques importants. Ça laisse les adultes pendant un moment sur place, jusqu'au moment où ils rejoignent eux-mêmes la cohorte, comme les premiers chemins de fer étaient considérés comme des dangers absolument considérables. Et je crois qu'on a peut-être encore, pour un certain nombre d'adultes, des difficultés à mesurer les éléments qui seraient de nature à répondre à votre question. Moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a, comme toujours, des avantages et des inconvénients. Les avantages indéniables, c'est la capacité de socialisation, la facilitation des relations avec d'autres à un âge où il n'est pas si simple de les rencontrer en chair et en os. Et que de ce point de vue-là, on va voir des cercles d'amitié, entre guillemets. Encore faudrait-il définir ce terme dans ce contexte-là. Mais en tout cas, des modes de relations nouveaux qui étaient jusqu'alors impossibles à établir pour certains adolescents, et je pense en particulier à ceux qui sont les plus en difficulté. Et puis, comme toujours, et comme tout outil, des inconvénients potentiels. Et là, ça interroge directement le rôle des adultes. Quels sont les adultes qui savent bien de quoi ils retournent ? En quoi on s'y intéresse ? Est-ce que les parents posent des questions sur ce qui se joue là, avec ce média-là, entre leurs enfants et d'autres, etc. Et là, je crois qu'on a à s'en soucier pour ne pas condamner d'office des modes d'échange, de communication, parce qu'on ne les connaîtrait pas, Donc la première étape, c'est d'essayer de s'informer et de mieux connaître, et les enfants et adolescents peuvent être d'excellents guides. Et la deuxième étape, c'est de veiller à un âge où ils ne sont pas toujours en mesure d'apprécier tous les avantages et inconvénients de la chose, de les alerter, mais encore cela suppose-t-il qu'on soit soi-même au courant. Beaucoup de parents ignorent, par exemple, que leurs enfants utilisent des blogs. Beaucoup de parents ne savent absolument pas si leurs enfants ont recours à Facebook ou pas. Parce qu'ils n'en parlent pas, leurs enfants répondraient volontiers. Beaucoup de parents et beaucoup d'enfants et d'adolescents ignorent que quand ils sont sous webcam à communiquer avec leurs enfants, ça peut tout à fait être facilement piraté par des réseaux pédophiliques et que des parents peuvent retrouver l'image de leur enfant sur des sites pédophiles, images qui ont été raptées et mises en scène dans des scénarios totalement étrangers aux agissements de leurs enfants. Mais bon, donc il y a un niveau d'information qui nous regarde, nous devons nous informer pour pouvoir... pour permettre que les enfants et les adolescents d'aujourd'hui et de demain utilisent ces médias, qui sont des médias qui font partie du monde, d'une manière avantageuse pour eux, et non pas seulement en y allant comme ça, soit en interdisant parce que ça nous ferait peur, soit en fermant les yeux et les oreilles parce que ça nous ferait peur aussi.
Une autre question, une autre intervention? Arnaud de Mesama, là-bas, dans le fond de la salle.
Oui, j'ai une question pour Geneviève Guichenet. Est-ce qu'elle a une tentative d'explication sur ce hiatus considérable entre les dirigeants de la télévision, de France Télévisions singulièrement, et le public à travers les témoignages dont elle a parlé tout à l'heure? Et deuxième question, est-ce que de son poste de médiatrice, elle a pu faire passer une partie de ce dont elle a été le témoin? Et est-ce que ça, à quel point elle a pu le faire passer ou pas? Merci.
Le hiatus, on retrouve les mêmes difficultés que dans la société, c'est-à-dire on se fait une idée du téléspectateur comme du citoyen. Enfin, c'est une espèce de masse informe comme ça. C'est pas un sujet, c'est ça le problème. Et on se demande comment les... Je n'ai pas de réponse à ça. Moi, j'ai écrit des rapports qui sont mis en ligne, qui sont à la disposition des téléspectateurs, qui n'intéressent strictement personne, à part quelques chercheurs un peu. Alors, des chercheurs, ça c'était quelque chose d'intéressant, c'est que y compris les chercheurs. Et sociologues spécialisés dans l'audiovisuel et les nouveaux supports culturels n'avaient pas l'idée de consulter des courriers spontanés comme ça. Ils se font des petits groupes de paroles et puis sur un thème qui est leur thème, donc ils se font leurs téléspectateurs et ils en tirent leurs conclusions. Et finalement, un jour où j'ai été conviée à parler, où j'étais la seule non-sociologue, j'ai le goût du risque, par moment. Ils m'ont regardé comme s'ils avaient sucé un citron, évidemment. Et je leur ai parlé des téléspectateurs, ce qui me paraissait quand même un tout petit peu normal en face de sociologues. Et ils ont découvert des choses. Et du coup, ils se sont intéressés au courrier parce qu'ils n'y avaient jamais pensé comme ça. Et... les gens de France Télévisions, individuellement, si on leur explique, il y en a une un jour qui m'a dit « T'en as de la chance de lire les courriers des téléspectateurs sur ce ton complètement... » Donc, j'ai pas résisté, je lui ai dit « Qui te regarde ?» Elle n'y avait pas pensé. Donc, je crois que, de ce point de vue, la télévision n'agit pas autrement qu'un certain nombre de responsables et de personnes, comment dit-on aujourd'hui, en situation de responsabilité, et que, tout simplement, ce ne sont pas plus des sujets pour la télévision qu'ils n'en sont pour le reste des responsables. Et c'est pour ça que je faisais un lien avec le développement durable, parce que par rapport à il y a 10 ans, et c'est vrai que ça me préoccupe énormément et que j'aimerais bien qu'il y ait une passerelle qui se fasse entre une pensée comme celle de Françoise Dolto et la situation vraie et les souffrances des citoyens, que ils soient téléspectateurs ou autres. C'est dans leur vraie vie que ça se passe, tout ça. Et je trouve que là, on est dans une situation légèrement différente d'il y a 10 ans. C'est que il y a des gens qui sont à l'offensive, et fait depuis 2 jours, là, effectivement, j'entends parler de résistance. Oui, mais on est face à quelque chose qui ressemble à un projet, quand même. Donc, je trouve que face à de nouveaux projets, ben, il faut en opposer un aussi. Et que la résistance, elle consiste maintenant à... Par exemple, pour moi, mais ça n'est qu'une hypothèse que je propose, et le développement durable, en ce qu'il est, en ce qu'il considère les citoyens comme des sujets, en ce qu'il les remet au cœur du système démocratique, il représente pour moi un humanisme et un renouveau démocratique, et la réponse à la crise actuelle, qui est son allié involontaire en quelque sorte. Et je pense que la psychanalyse doit essayer d'investir ce champ-là. Je pense pour ma part qu'elle y a sa place. Je sais que c'est difficile, mais c'est indispensable. On va s'arrêter là-dessus.